Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe de l'autre côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose battitissimo. Papa battitissimo.
Bienvenue dans Cinémascope pour ce rendez-vous de cinéphiles aujourd'hui, peinture fraîche, puisque nous sommes deux et nous sommes deux à avoir préparé cette émission à strictement parler jusqu'à la dernière minute.
Jusqu'à la dernière seconde.
Oui, on peut dire ça. Mais on n'en est pas moins heureux, n'est-ce pas, Alexis ?
Je suis très heureux d'être là et toujours présent et toujours ravi de parler de cinéma.
J'en témoigne avec Sylvain, fidèle au poste, ne pas l'oublier, parce que c'est lui qui réalise.
Bonjour.
Bonjour, lui aussi, sur les charbons ardents ce matin en attendant les sons. Et votre serviteur, Olivier, donc nous avons vu du cinéma cette semaine, c'est le moins que nous puissions dire. Au programme, pas moins de 5 films, si je fais un décompte rapide juste. Et nous allons commencer sans filer avec un film, Alexis, que tu as vu très récemment. Il s'agit de Mastermind, un film de Kelly Reichardt avec Josh O'Connor, que nous aimons tous les deux, puisque nous l'avons vu dans Rebuilt, nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment l'acteur qui travaille beaucoup là, ces derniers temps, pour notre plus grand plaisir, c'est pas un mot. On se trouve dans le Massachusetts, dans les années 70, je te laisse peut-être nous raconter l'histoire.
Ouais, donc on se retrouve, alors je ne redirai pas, je vais essayer hein, quand même, le Massachusetts. Ouais, c'est très dur, on a rigolé ce matin.
Ouais, ouais.
Donc dans les années 70, et on suit un père en quête d'un nouveau souffle qui il va se découvrir entre guillemets une je ne dirais pas une profession mais une nouvelle
vocation.
Une nouvelle vocation qui va être le vol dans un muséum local du territoire qui en plus pour la petite histoire ses parents sont abonnés à ce musée, donc sont des ambassadeurs de ce musée là et donc rien de mieux pour voler des tableaux, donc des tableaux d'Arthur Dove, donc peinture abstraite. Alors en plus dans la petite histoire, c'est que le musée, alors ça c'est une petite anecdote que j'ai lue, c'est le musée a été refait intégralement avec des reproductions de ces œuvres-là et ça a été tourné pendant 3 jours dans ces studios-là et tout a été ensuite déconstruit et voilà.
Ah ouais. Donc, oui, le Massachusetts qui était un état de la côte est, capitale Boston, évidemment avec une culture très très importante. Hein,
exactement.
C'est l'Europe pratiquement. Allez.
Donc The Mastermind, donc Kelly Reichardt n'est pas à son premier essai au niveau de ses films, hein, elle a eu des films notables comme Wendy et Lucy et Showing Up dernièrement, elle poursuit donc son exploration dans ses films géographiques, sociales et humaines, et là on va être plutôt dans l'humain, elle s'attaque cette fois-ci au masculin. Pourquoi ? Parce que on est sur un film entre guillemets de braquage à la base, et on est plutôt dans le film anti-braquage pour le coup. Ce film qui est plutôt porté, va être évoqué comme un film justement typiquement masculin, un film de braquage, on va être plutôt à l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va s'arrêter sur les 10-15 premières minutes qui s'arrêtent sur le braquage en fait. Au départ, ce qui est plutôt à l'inverse des films de braquage, qui vont être d'abord la préparation du braquage, et la conclusion va être le braquage. Et là, on va être plutôt à l'effet inverse, donc on va voir le braquage, et le reste du film, en fait, ce sont les conséquences du braquage, et qu'est-ce que cela va emmener pour... Enfin, les conséquences du braquage, du père, de la famille, etc. Donc j'en dirai pas plus, parce que sinon je spoilerai le film à ce niveau-là. Moi, ce que je peux vous dire, déjà au niveau de l'image, je l'ai trouvée très très intéressante, parce qu'en fait, elle s'arrête sur l'image des années 70. Voilà, l'intro parle d'elle-même, en fait. Déjà, on voit voit un générique de début qui se fait plus trop maintenant avec tout le défilement de la présentation des acteurs, réalisateurs, etc. Mmh. Sur une patine voilà très jaunâtre, très marron, qui va nous rappeler ces films-là des années 70. Moi, j'ai vu que voilà, il s'était inspiré de deux films américains des voilà vraiment des années 70. Et en plus, l'entrée du film est assez c'est du jazz en fait. Donc on a ces percussions, etc. Donc ça nous rappelle ouais. bien ces années-là. Et de plus, toute la partie du braquage, elle est accompagnée d'un son de son de percussion qui va en fait accentuer ce train qui va être je vais pas avoir les mots ce braquage qui va monter en puissance en fait et qui va avoir lieu voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est tourné très très simplement et on va vraiment s'arrêter au personnage donc de Josh O'Connor qui va être déconstruit au fur et à mesure, avec une allure et une façon de jouer qui va être très marquée par la vie, par son quotidien, par cette lassitude. Et ce braquage va être le petit truc qui va, entre guillemets, remettre sa masculinité en avant. Et on va voir qu'en fait, la réalisatrice a fait tout le contraire. Donc, elle va le déconstruire au fur et à mesure. Voilà ce que je peux dire du film. Moi, j'ai trouvé que ce film avait un sens et que justement on est au basculement dans ces années 70 là à la déconstruction de l'homme du masculin dont The Mastermind qui est le cerveau de l'opération et en fait c'est tout à fait l'inverse.
Donc on suppose que Josh O'Connor est bien dans ses choix de rôle actuels, justement c'est l'anti-masculinisme mais en même temps c'est Il y a une masculinité assumée malgré tout quoi.
Il a un air moi je trouve d'Adam Driver dans son jeu. Ils ont le corps un peu balançant. Ils portent cette lourdeur de la vie quotidienne qui est intéressante.
Le témoignage d'ailleurs des gens qui travaillent avec lui, les femmes en particulier, corrobore ça parce que bon il est sur les plateaux. Il vient du théâtre, hein, il est anglais je crois, hein, et donc il incarne un peu dans la réalité cette douceur masculine et puis cette culture dont on parlait à l'instant à propos du musée quoi. Hein,
exactement.
Alors je crois qu'on change complètement d'ambiance. Je vais pas chercher à faire un lien qui n'existe pas puisque nous passons au gâteau du président.
طلعوا كتبكم صار الوقت المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميحة احمد نايف
نعم استاذ يا بنت اليوم غضبانه عني
الكيكه حبيبتي تركيها
قال الكيكه حتى لو صغيره
يبي ايش اسويها والله حبيبتي راحت مني
Comme je suppose que vous ne comprenez pas absolument toute la teneur des dialogues de cette bande-annonce, j'ai préféré donc demander à Sylvain de ralentir un petit peu sur ce coup-là, mais c'était pour donner l'ambiance. Donc nous sommes en Irak en 1991, c'est encore le pouvoir de Saddam Hussein. Et donc nous sommes, je ne sais pas si c'est un genre de cinéma, mais nous sommes on filme la dictature de l'intérieur, hein, au ras du sol, les petites gens, quoi, et voilà. Et en l'occurrence, bon, le gâteau du président, ça mérite peut-être une toute petite explication. Il s'agit de réaliser un gâteau d'anniversaire pour l'anniversaire de Saddam Hussein. Et il y a une espèce de concours à l'école comme ça et on tire, on désigne celui qui aura l'honneur de faire le gâteau du président.
Oui, c'est ça. En fait, alors déjà, le film est filmé à hauteur d'enfant, ce qui est très, très intéressant pour le coup et ce qui va permettre au récit d'être de créer cette dramaturgie-là, justement. Alors oui, en fait, on suit une fillette de 9 ans à l'école qui Alors on le met bien dans le contexte, mais une petite fillette avec des moyens très très pauvres, avec qui vit avec alors sa grand-mère de mémoire, qui nous met en contexte que ben voilà, la vie est difficile en Irak dans ces années-là, et de toute façon elle est toujours tout autant difficile à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, ça remet le contexte dans ces années avec la présidence de Saddam Hussein. Et en fait donc à l'école ils sont tirés au sort en fait chaque année lors de l'anniversaire du président pour faire le gâteau qu'aime tant justement ce président.
On a l'info sur le gâteau qu'il aime.
Alors, la recette, on l'a à la fin, en fait. On voit préparer la recette. Donc, alors, intéressant ou non, d'ailleurs, hein, mais oui. Je sais pas si on a forcément envie de le manger.
Pas vraiment.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas que le gâteau. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tirés au sort pour plusieurs choses, donc ramener la corbeille de fruits, etc. Donc, et en fait dans ce régime-là, on constate que pour ne pas être dans les petits papiers tirés au sort, il faut graisser la patte du maître, en fait.
Donc
il faut réparer le vélo du maître, etc. Il faut faire plein de choses différentes, et de toute façon on le voit bien parce que les élèves le disent, tu diras bonjour à ton père qui a réparé mon vélo, etc. Donc on voit qu'il a été et pour les gens qui ont été moins sages, eh ben en fait on va mettre plusieurs fois le papier dans le chapeau du nom de la personne qui a été le moins sage pour être tiré au sort le plus
pour échapper à une dictature, on se soumet à une autre, en fait.
Exactement, voilà.
C'est terrifiant.
et c'est terrifiant, et le film est terrifiant, en fait, déjà, parce que, comme je disais, à hauteur d'enfant, ça nous permet que ce passage-là, cette terreur, soit de plus en plus prononcée. On va suivre toute la procédure du gâteau. Donc, elle va partir en ville avec sa grand-mère pour aller acheter, justement, des ingrédients. Et en fait, elle va faire la rencontre de Saïd, de mémoire, qui est son petit compagnon qui va l'accompagner tout le film pour chercher des ingrédients. Et elle va se confronter à des difficultés dans la ville pour avoir ces ingrédients. Donc, elle va avoir faire face au vol, etc. Enfin, j'en dirai pas plus. Et on voit toute la bêtise, en tout cas, de ces régimes-là qui, en fait, ne s'arrêtent pas qu'à l'école, mais déjà que ça soit introduit dans l'école, c'est déjà grave. Mais alors ça, en fait, c'est dans tout l'espace, dans la ville, etc. On voit que les gens, en fait, c'est un peu chacun pour leur pomme. Ouais. En fait, quoi qu'il arrive, c'est la survie, c'est l'auto-survie. Et donc elle va essayer de chercher ses gâteaux au péril de sa vie. Ses ingrédients sont vraiment au péril de sa vie. Et en fait, lui, c'est le réalisateur, c'est de l'auto, enfin c'est une autobiographie entre guillemets, dans le sens où il s'est inspiré de ses faits réels enfants. Donc ça, il l'a vécu pour raconter cette histoire-là. Et alors moi, la fin m'a glacé le sang, parce que en fait, la conclusion, je ne vais pas la dire, mais si vous allez voir le film, on va dire tout ça pour ça. Voilà. Et ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'on montre quand même, et ça, c'est pas un spoil du tout, on montre la grandeur du gâteau du président, qui est une image d'archive et qui monte jusqu'au plafond avec une horloge à l'intérieur, enfin, un truc de dingue. On se dit, c'est pas possible, la bêtise et l'immensité de la chose. On se dit, mais comment, dans les années 90 et encore à l'heure d'aujourd'hui, on peut accepter ce genre de choses. Alors, malheureusement, ils y sont contraints, mais ça, c'est encore un film nécessaire à l'heure d'aujourd'hui pour montrer que les dérives des dictatures, est-ce que c'est une dictature aussi? Et je me dis que quand on se regarde dans un miroir, on se dit waouh, c'est chaud, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ben, tu es exactement, bon, en préparant l'émission, on travaille donc en s'envoyant des messages, etc. J'avais suggéré qu'on pourrait évoquer le match du Kremlin et Nuremberg. Ouais. Derrière, effectivement, ce gâteau du président. Je ne peux pas ne pas penser aux graines du figuier sauvage, où là aussi on a la dictature iranienne qui est saisie à la fois au plus haut niveau, puisque le personnage principal du film a des grandes responsabilités dans la police iranienne, et au plus petit niveau, dans la mesure où, comme tu le dis, la dictature s'infiltre partout, y compris dans l'intimité familiale. Donc on a ça. Et je veux dire, c'est que ce soit Nuremberg, avec la question des bourreaux de la destruction des Juifs d'Europe. Donc on a ce balancement hein, entre les bourreaux individus et puis le projet européen quoi, de destruction des Juifs. Poutine, évidemment, on voit très bien les rapports avec son conseiller, qui sont des rapports interpersonnels, comment ça réagit sur la vie personnelle des individus et comment ce qui s'engage derrière, c'est une guerre d'agression qui concerne l'Europe. Et là, de la même manière, hein, finalement. Et alors, évidemment, comme on est à la fois sur l'universel, le général, le collectif et l'intime, on a ce côté complètement dérisoire. Parce qu'on va porter le gâteau à un niveau international. Et évidemment, c'est grotesque.
Et oui. Alors là, je parle d'aujourd'hui, mais on est quand même sur un constat édifiant. Parce que je trouve que les films sont des beaux porte-paroles de ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, on n'a jamais eu autant de films qui ont parlé de dictature à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a quand même... Enfin, ça a été... J'ai écouté ça hier soir, mais c'était une association qui avait fait ressortir ça, mais que 85% des... entre guillemets, des gouvernements seraient des dictatures.
Oui, voilà. On a 71 conflits en cours en ce moment. Ça laisse aussi un petit peu rêveur parce que, évidemment, ces dictatures, la plupart du temps, reposent, enfin, se façonnent dans la violence, par la violence. Et souvent, la guerre extérieure est un prétexte à réaffirmer la violence à l'intérieur.
Ouais.
Évidemment, un des principaux arguments du régime iranien, c'est les États-Unis qui sont des agresseurs potentiels et contre lesquels il faut se réarmer, etc. Donc on a cette utilisation omniprésente de la violence qui est aux antipodes de l'intelligence, d'où le côté dérisoire par moment. Et ça fait penser évidemment à un simple accident de Panahi, effectivement, parce que là aussi on a cette infiltration de la violence dans l'intime et qui vient du plus haut, quoi.
Complètement. Donc pour moi, ces films-là sont d'une nécessité rare, on va dire,
et
permet d'ouvrir les yeux. Hein,
Et complètement. Et je. Oui. Et une autre chose que tu dis qui me frappe, c'est quand même, je trouve révélateur qu'évoquant des problèmes internationaux, on est amené à nous dire, tiens, ces films qui traitent finalement de problèmes internationaux, nationaux et internationaux, nous invitent à nous regarder dans le miroir.
Oui.
C'est curieux parce que finalement, on dirait, on va se placer comme ça au niveau du débat de politique internationale et on va sortir toute notre science en matière de diplomatie, de stratégie, etc. Et en fait, non, on est aussi ramené à finalement, quel est mon rôle à moi dans tout ça?
Exactement.
C'est terrible.
Ouais, c'est terrible et je crois que ça sera moi mon dernier mot, mais en France, on a quand même la chance de voir ces films parce que dans d'autres pays, ce sont des films qui ne sortiront jamais ou censurés ou voilà, et on voit comme des réalisateurs iraniens qui quittent leur pays pour aller exporter leurs films dans des conditions catastrophiques.
Ouais.
Donc voilà, allons voir ces films, c'est tout ce que je peux dire.
Oui, et je m'en félicite d'autant plus que, par exemple, dans l'animation de l'atelier de philo hebdomadaire, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ça et qu'on utilise aussi les films pour nous aider à comprendre ce rapport entre la dictature internationale et notre vie personnelle et ce qu'on a à faire là-dedans, quoi. Et effectivement, c'est extrêmement préoccupant et je pense qu'on va pas lâcher l'affaire parce que le film qui vient... à pied d'œuvre, eh ben, mine de rien, nous invite à réfléchir aux mêmes questions, mais alors chez nous, pour le coup, à pied d'œuvre.
Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman.
Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin?
Ce n'est pas la misère. Mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps?
Mais vous faites ça depuis longtemps?
Pas vraiment.
Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça.
Gare du Nord?
Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture?
Ah, je travaille.
Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave.
Tu sais, à notre époque... Il y a des esclaves très bien payés.
Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde.
C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche ?
C'est votre métier, le bricolage ?
T'es complètement taré.
J'ai une bémol. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre.
Espoir. Comment t'en es arrivé là ?
J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard.
Du moment que j'écris.
Oui, alors ce film, on peut le résumer quand même assez rapidement. Paul est photographe de profession. Il travaille pour les journaux et il est connu, reconnu. Il gagne entre 3 000 et 8 000 euros par mois. C'est donc assez correct. Et pratiquement du jour au lendemain, il décide d'abandonner ce travail assez régulier finalement de photographe pour écrire. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu'il laisse tout tomber. Et il rentre dans, on va essayer d'aller vite, mais il rentre dans l'économie du jobbing, hein, c'est-à-dire des petits boulots. Il y a des plateformes, hein, où vous inscrivez et vous vous proposez de faire à peu près tout ce que vous êtes capable de faire, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. En gros, enfin, je veux dire, un peu de jardinage, du nettoyage, vider des caves, réparer des machines à laver, enfin tout. Hein, je veux dire, voilà, si vous avez capacité de donner quelques cours, vous donnez aussi quelques cours. Et je crois qu'il est important de développer un peu le système économique pour bien comprendre le rapport avec ce que nous disions à juste avant. C'est-à-dire que sur ces plateformes, ceux qui proposent leur travail, ceux qui proposent leurs services, sont en compétition. Il faut qu'ils baissent leurs tarifs pour obtenir les missions. Et donc, on a des missions qui peuvent durer plusieurs heures, 3-4 heures. On voit à un moment donné arracher tous les buis de 16 jardinières. Ceux qui sont déjà attaqués à ce genre de problème voient le temps qu'on peut passer pour sortir 32 buis, hein, de 16 jardinières pour les remplacer par du terreau sur lequel on va pouvoir replanter. Donc voilà, le mec, il a à faire ça et ça va lui rapporter 20 euros. Donc, on voit qu'on est très en dessous du SMIC horaire, c'est n'importe quoi. Et donc, rentre en concurrence des gens comme Paul, qui ont quand même fait ce choix, avec d'autres gens qui ont plus ou moins fait le choix comme des migrants, et puis des gens qui n'ont pas du tout fait le choix, qui se retrouvent, qui sont aux limites de se retrouver à la rue. Et qui, voilà. Donc, ça pose une question. Alors, dans le rôle principal de Paul, Bastien Bouillon, qu'on voit partout. On se disait hors antenne que c'était un petit peu le Josh O'Connor français, parce que lui aussi, il fait procéder à une relecture de la masculinité. Voilà, là, il s'est récemment séparé, deux enfants, le mec comme vous et moi, quoi, enfin, voilà, normal, et qui se retrouve à, comme il dit, c'est pas la misère, mais commence à avoir une vue bien dégagée sur la misère. Voilà, voilà la problématique. Ce qui fait dire, évidemment, que la dictature que nous... Alors, on est bien d'accord, Alexis, et puis je pense Sylvain... Et moi, pour dire qu'en France, on est quand même beaucoup mieux qu'en Irak, en Iran, en Russie, ou voilà. Ceci dit, nous sommes quand même les victimes, et au plus haut niveau et au plus bas, de la société de consommation, du capitalisme financier libéral, hein, où effectivement, des types, des cadres supérieurs qui gagnent plusieurs, éventuellement dizaines de milliers d'euros par mois, s'offrent les services de quelqu'un qui vont rémunérer avec un billet qui tombe de leur poche, quoi. Enfin, je veux dire, quelque chose comme ça, quoi. Moi, ça me donne pratiquement le même frisson. Évidemment, je fais bien la différence entre la misère salariale en France et les prisons d'Iran. Je suis pas fou. Je fais bien la différence. On est bien d'accord. Mais ça laisse à réfléchir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais...
Ce que je dirais que ça donne des situations hors sol, en fait, ouais. Tout simplement. Et comment on peut comprendre ce genre de situation-là ? En fait, elle est là, la question, c'est comment on peut expliquer l'inexplicable ?
Ouais.
Et je crois que même si on voulait être le plus rationnel possible, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que... Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on a... Alors moi, j'ai pas vu le film, mais en tout cas, de ce que tu en dis, je pense que ça peut poser ces questions-là.
Bien sûr.
Et je pense qu'on n'est déjà tous pas à l'abri de ce qui peut arriver dans la vie. Moi, je l'ai connu sur des connaissances, etc.
Bien sûr.
Et ouais, qu'est-ce qu'on...
Pépin de santé, ouais. Pépin affectif, et c'est vite fait, hein. C'est vite, ouais. Plié, l'histoire. Et... J'aime bien ce que tu dis sur on se retrouve à devoir expliquer l'inexplicable, parce qu'effectivement, face à ces situations donc de dictature, hein, le gâteau du président, hein, ou face à cette situation de Paul qui gagne 20 euros pour 4, 5, 6 heures de travail, on est effectivement devant la nécessité d'expliquer l'inexplicable. Et alors, les explications, soit on les cherche du côté des grands mécanismes économiques, etc., mais finalement, on ne les y trouve pas, les explications, ça ne suffit pas. Alors, on va les chercher au niveau individuel. On va dire, le mec a fait les mauvais choix, ils ont systématiquement fait les mauvais choix, les Iraniens, ils ont mis les mauvais votes jusqu'au moment où ils ont fait la mauvaise révolution en 79, et puis ils se retrouvent avec des ayatollahs, enfin, et on va faire porter la responsabilité aux individus et leurs mauvais choix. Mais on sent bien que là aussi l'explication définitive nous échappe, parce que c'est pas nos petits, c'est apparemment pas nos mauvais petits choix individuels qui sont susceptibles d'expliquer tout ça. Enfin, ça paraît difficile. Surtout que, comme tu le disais, on peut être amené à se regarder dans le miroir et se dire, bon, finalement, quand j'ai acheté le nouvel ordinateur, quand j'ai acheté le nouveau portable, est-ce que j'ai pas fait un choix qui conduit finalement à soutenir une économie insoutenable et qui est notre dictature sur laquelle qui nous revient en pleine tronche? On est dans un questionnement que tous ces films prennent véritablement en charge, et je trouve de manière extrêmement... parce que alors, moi, j'ai vu, évidemment, à pied d'œuvre. Je tiens à souligner, quand même, que le film de Valérie Donzelli, c'est pas son premier, hein, cinématographiquement, ça tient extrêmement bien la route. C'est-à-dire, non seulement c'est bien joué, la direction d'acteur est extrêmement bonne, l'histoire tient parfaitement debout, mais en plus, au niveau de la photographie, du montage, on a des effets cinématographiques qui sont porteurs de ce message. En particulier... on a une perte de l'unité du personnage, une espèce de morcellement de sa vie dont on rend compte à l'écran, à l'image, par la superposition de façons de filmer différentes, des images de portable avec des images plus classiques, des photos qui apparaissent à l'écran, des reflets, etc., qui sont la mise en forme des problèmes que nous avons sur le fond, à savoir... Cette nécessité de comprendre ce qui est en train de se passer, etc.
Mais je crois qu'on a envie de... Enfin, en tant que personne, on a envie de comprendre, mais on est tellement matrixé par la société. Dans ce que j'ai lu et vu du film, même la société ne comprend pas pourquoi choix. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a déjà des incohérences, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de comprendre, mais ils comprennent même pas eux-mêmes parce qu'ils sont matrixés par la société. Oui. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps.
Complètement.
Et dans la vie, dans nos choix, c'est exactement pareil. On va faire des choix. Et la famille ne peut pas comprendre non plus. Voilà.
Et on n'est pas.
C'est vraiment à tout niveau.
Et on n'est pas bien sûr que le choix artistique de Paul, sa liberté d'artiste, etc. C'est toujours pareil. On ne sait pas. Soit c'est héroïque. Et c'est la preuve d'une vocation artistique pleine, entière, infracassable, etc. Et d'un autre côté, ça prend vite des allures complètement dérisoires, parce que son roman va venir grossir le flot des 600, 700, 800 romans qui sortent tous les ans en librairie. Et donc, on finit par plus savoir. Enfin, moi, je serais le père de Paul, comme dans le film, d'ailleurs, le père de Paul. Il a envie de tirer un peu la sonnette d'alarme et de dire, mon fils, qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, qu'est-ce que tu fabriques, quoi?
Et je vais faire peut-être une transition, mais est-ce que la souffrance ne transcende pas l'art?
Ah ben oui, ou l'art, la souffrance, je sais pas. Ah, ben, en tous les cas, on en est rendu là. Peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, et là non plus, je n'ai pas de bande-annonce. Peut-être qu'il y a des réponses dans le dernier film de Chloé Zhao, Hamnet.
Hamnet, ouais, qui est donc...
Tu peux nous expliquer un peu
le... Ouais, alors déjà, vous expliquer qui est Chloé Zhao rapidement. Elle vient du documentaire à la base, où elle faisait beaucoup de portraits de personnages et border... et Nomadland, et lui fait bien l'image de son travail qui était un mélange de fiction et de portraits documentaires sur des personnages.
Là aussi, on est dans la nouvelle économie, hein, des gens qui vivent dans des camping-cars pour aller de lieux où ils peuvent travailler en lieux où ils peuvent travailler, et puis aussi en concentration où ils peuvent se réunir.
Quoi. Exactement. Et ensuite, elle s'est un peu perdue en essayant de faire un film Marvel. Donc, c'était Les Éternels qui, malheureusement pour elle, était une belle porte d'entrée pour partir dans le box-office, qui était presque assuré, même parce que tous les Marvel tapaient le milliard. Et manque de bol pour elle, et ben elle est tombée sur l'os, c'est-à-dire que l'après MCU, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour elle.
Après parce... MCU,
alors quand je dis MCU, c'est le Marvel Universe, Cinematic Universe, où en fait il y a eu l'axe narratif qui s'était terminé. Et en fait, ils ont voulu refaire un film Marvel.
Une espèce de reboot, comme ça.
Exactement, reboot ou de continuer le projet. Et en fait, ça a été le fer de lance. Ils ont voulu prendre Chloé Zhao parce que c'était l'étoile montante. Et en fait, malheureusement, alors c'est pas forcément elle qui s'est complètement plantée. Hein. Juste que le film était nul, hein, complet, voilà, oubliable. voilà.
C'est bref, pas son cinéma
donc
plus,
c'est pas son cinéma non plus. Donc elle a repris ses petits. Et puis elle s'est dit pourquoi je referais pas un film.
Un vrai film.
Alors un film pour le coup oscarisable. Ouais. Très léché, ouais, très, ouais. Très beau. Ouais, alors on va dire qu'on n'est pas au niveau de Nomadland, Hamnet n'est pas son meilleur film, donc on suit bien...
On est en Angleterre à la fin, exactement. C'est un jeu de mots avec Hamlet, Shakespeare...
Ouais. En fait, on suit pas William cette fois-ci, on suit Agnès, qui est sa femme, pendant quasiment les trois quarts du film, hein. Où on va suivre un petit peu le parcours d'Agnès en mettant à la vie ses deux enfants. En fait, on va savoir comment est né Shakespeare, en fait, tout simplement. Et en fait, on va suivre donc la naissance de ses enfants, l'accompagnement de ses enfants. Alors c'est dit, c'est pas un spoil, hein, la mort d'un de ses enfants, et comment le deuil en fait a nourri justement donc la pièce, comment a nourri l'œuvre. Et
Hamlet, donc justement.
Exactement, Hamlet. Et donc du coup, alors moi ce que j'aime beaucoup ce film, il est dévastateur. Prenez les mouchoirs, prenez tout ce qu'il faut parce que là vous allez pleurer. Par contre, pour les gens qui n'aime pas justement le mélo et qui n'aime pas le surlignage sur... parce que là, clairement, on nous dit, voilà, faut pleurer, on nous met les musiques qui vont avec, on nous met la totale, on fait les gros plans pour dire, là, tu souffres, là, vraiment, tu souffres, et tu vas pleurer. Et ben en fait, on peut être complètement le contraire. Hein. On peut avoir les yeux vraiment très secs et ne pas du tout aimer... voilà.
De pas donc, balader comme
pour
ça.
Pour moi, on est sur le fil du rasoir où soit on va s'ennuyer, soit on va adorer, on va pleurer, et il y a beaucoup de gens qui vont adorer et il y a beaucoup de gens qui vont détester, ça c'est une certitude. Et c'est pour ça que les critiques sont plutôt assez mitigées, parce que vraiment ça dépend de notre sensibilité à nous. Et pour dire que moi je trouve que voilà, Chloé Zhao elle a des thématiques qui sont très fortes, la nature est là pour nous le rappeler, il y a des plans sur elle qui vont être très serrés dans la nature en position fœtus qui vont être magnifiques, elle a des thématiques sur la femme, sur le deuil qui sont très intéressantes. Et en fait, pendant une heure, on va justement avoir des ellipses narratives qui vont s'étaler sur ces thématiques qui peuvent être un peu longues parfois. Et je trouve que parfois ça manque de, je sais pas, ça manque de quelque chose qui va nous prendre. Et par contre, voilà, y a la dernière demi-heure est digne d'un des grands films oscarisables, justement.
Ouais,
et là, on nous prend, on nous jette, on nous fait pleurer. Et j'irai pas plus loin. Allez voir ce film parce que c'est un grand film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est un grand film, allez le voir. Et Chloé Zhao, de toute façon, c'est toujours une très bonne réalisatrice, c'est une valeur sûre. Ouais. Et rien que pour la performance de Jessie Buckley, parce que ça, je ne l'ai pas dit, qui est exceptionnelle.
Qui joue donc la femme
Agnès, rien que pour ça, go banco.
Oui, et puis alors justement pour voir si il y a au niveau de la création artistique peut-être une sortie ou une sortie illusoire des dilemmes dans lesquels nous sommes du point de vue social et politique, quoi.
Ouais,
et même à la souffrance, quoi. Il me reste un tout petit peu de temps parce que une des raisons pour lesquelles la préparation de Cinémascope a été un petit peu, je le disais, peinture fraîche tout à l'heure, c'est que je n'ai pas voulu venir sans pouvoir parler de la nouvelle projection des Escales Patrimoine. Il s'agit de l'Aurore de Murnau qui est passée une première fois mercredi à 18h, qui va 18h30, non, c'était jeudi, qui repasse lundi 9 février à 15h et mardi 10 février à 20h45. Donc moi, je me le suis visionné ce matin. Je pensais le regarder d'un œil pour simplement pouvoir vous en parler honnêtement. En fait, j'ai été littéralement scotché au film. C'est un film muet. On a l'impression que jamais ça va pouvoir marcher sur des gens comme nous à l'époque d'Avatar et de. Enfin, je veux dire, ça paraît compliqué. Et non, quoi. Il y a une émotion. Alors, tu parlais d'être baladé. On est baladé de l'amertume à la joie, de la tendresse à la violence, de plan en plan. C'est absolument incroyable. Une photographie aussi magnifique, des superpositions de plans pour évoquer. Alors il y a une grande opposition. En gros, c'est un couple de gens qui vivent à la campagne. Et lui tombe amoureux d'une femme qui vit à la ville. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une proposition de la part de la femme qui vit en ville de noyer sa compagne campagnarde. Je spoil pas, hein, c'est le début du film. Et on est pris par un noir et blanc somptueux. J'ai rien d'autre à dire. J'imagine que grand écran au navire, ça doit être absolument magnifique à voir.
Et obligatoire.
Pratiquement. Pratiquement. Non, mais moi qui ne suis absolument pas qu'une culture patrimoniale cinématographique assez petite, là, je dois dire qu'il y a moyen de vraiment découvrir et de se constituer en plus un œil de cinéphile pour voir avec un autre œil ce qui sort aujourd'hui. C'est important de voir que par certains aspects, on n'invente pas grand-chose, par d'autres, enfin voilà, c'est chouette.
Et je dirais, créons notre propre dictature et disons aux gens, allez au cinéma, une obligation d'aller au cinéma.
Voilà, c'est ça, une douce obligation artistique. Voilà, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Je remercie encore Sylvain qui réalise tout ça. À la semaine prochaine, voyez des films. Ciao, ciao.
À bientôt. Oui.